Maximus présente Podmax. Tu es créateur ou entrepreneur, c'est ton rendez-vous. Motivation, inspiration, interview, conseils et astuces, c'est maintenant.
Dans ce podcast, je vais te parler d'un concept qui est super, super, super important. Je vais te raconter une petite anecdote, plutôt ce que j'ai vu la dernière fois. Et je vais te la raconter tout de suite, pas plus d'intro. Donc j'ai vu une vidéo, parce que quand je m'ennuie en ce moment, je vais sur YouTube, quand je veux prendre du temps, je vais sur YouTube et je rafraîchis la page d'accueil, où tu sais, tu as les suggestions vidéo, pour avoir des vidéos intéressantes. Et en ce moment, je choisis pas mal tout ce qui est culture, mini-documentaire, apprendre des choses, quoi. L'idée, c'est de découvrir des nouvelles choses. Et là, en l'occurrence, je suis tombé sur une chaîne avec un gars, alors c'était un guest, malheureusement, il fait pas de vidéo, mais c'était un mec qui était designer. Donc c'était une vidéo en anglais et le gars testait des outils que tu as déjà vu dans des pubs à la con, du style le machin pour ouvrir les avocats, tu sais, des petits ustensiles de cuisine, le machin pour ouvrir les ananas, le machin qui te permet de couper la pastèque en carré, etc., etc. Donc il testait ces outils en vidéo avec son point de vue et ses capacités de designer pour t'expliquer si l'outil était bien fabriqué et pas bien fabriqué, si lui, il le recommanderait, etc., etc. Et on va dire qu'on s'en fout un petit peu de ce qu'il fait et de ce qu'il juge, mais ce qui est intéressant, c'est son process. Le process de comment il analyse les outils en question, les ustensiles en question, et comment il a établi plusieurs tests, et qu'est-ce qu'il recommande à la fin de ces tests, et qu'est-ce que ça révèle pour lui, ces tests. Je te la fais court. En gros, il y a une chose qui était assez marrante, c'est qu'il testait le produit avec donc la main normale, sa main droite, il était droitier. Il testait le produit avec la main droite, donc l'utilisation standard. Ensuite, il testait le produit avec la main gauche, plus de l'huile, huile d'olive ou voilà, de l'huile. Parce qu'en fait, ce qu'il voulait faire, c'est simuler une personne qui est handicapée, entre guillemets, ou simuler une personne qui n'a pas les mêmes capacités, ou qui devrait utiliser sa main gauche, par exemple, si ta main droite est immobilisée ou autre. Mais en gros, ce qu'il veut, c'est simuler ça. Il voulait pas simuler un gaucher. Il utilise sa main gauche parce que justement, il n'est pas gaucher et qu'il est un petit peu plus, entre guillemets, handicapé en utilisant sa main gauche qui n'est pas sa main habituelle. Et il rajoute de l'huile pour voir quels sont les problèmes. Et typiquement, c'était assez intéressant parce que le machin pour les avocats, tu sais, qui fait un tourbillon d'avocats et qui enlève le cœur, et ben, il a trouvé ça très très bien et pas trop difficile à utiliser avec sa main droite. Mais par contre, il l'a trouvé un peu plus compliqué à utiliser avec la main gauche plus de l'huile. Et là, tu me diras, c'est normal puisqu'il est droitier et parce qu'il ne faut pas mettre de l'huile dessus, sinon c'est pas très intéressant. Enfin, du moins, ça glisse, quoi. Et du coup, c'est exactement ce qu'il cherche, lui. Il veut que ça glisse et il veut que ce soit compliqué parce que ça lui permet d'analyser comment se positionne sa main, qu'est-ce qui ne marche pas, etc., etc. Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et donc là, pour le coup, c'était une poignée qui était tout à fait symétrique, un peu arrondie, etc. Et le mec disait, ouais, là, il faudrait que la poignée, en fait, il y ait un petit arrondi d'un côté, un petit arrondi de l'autre côté, pour que ça fasse des repose-doigts ou des repose-mains, pour que tu puisses forcer plus facilement, même quand c'est mouillé ou même quand tu n'as pas beaucoup de force. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'il parlait tout le temps, à chaque fois qu'il testait un truc, des gens qui sont handicapés, des gens qui ont de l'arthrose et qui ne peuvent pas serrer, et à chaque fois il expliquait ça, et à chaque fois il expliquait qu'il faut bien faire attention quand tu designes quelque chose, que ce soit adapté aussi bien aux gens qui ont de l'arthrose et qui ne peuvent pas serrer les doigts comme toi, tu peux les serrer quand tu es jeune et que tout va bien dans tes articulations. Pareil pour les handicapés qui n'ont potentiellement pas la capacité de serrer le truc exactement. Et pareil pour les gens qui n'ont pas la capacité d'utiliser l'outil comme les gens valides. Et ça, c'est super intéressant parce qu'au bout de cette longue histoire, il y a une réflexion. C'est que simplement, ça dénote une chose. Et ça, je l'avais déjà vu dans une autre vidéo justement sur le design, c'était que tu ne dois jamais, aujourd'hui, designer quelque chose, d'un point de vue design d'objet, designer quelque chose pour les gens qui sont valides. Tu es censé, en réalité, designer en pensant aux handicapés. Parce qu'ils ont fait des tonnes et des tonnes d'études, que je n'ai pas en tête et que je n'ai pas en lien, mais tu vas me croire sur ce sujet-là. Ils ont fait des études où ils se sont rendus compte qu'en fait, quand tu donnais un outil, on va prendre un couteau pour le beurre par exemple, qui est designé avec une très grosse poignée pour que des handicapés puissent s'en servir, et ben quand tu le donnes à un valide, le valide il peut s'en servir sans souci. La poignée est plus grosse, pour lui c'est pas un souci. Par contre, quand tu fais l'inverse, que tu donnes un couteau qui a été designé pour les valides à un handicapé, il peut pas le saisir correctement et il peut pas s'en servir correctement de façon agréable et non dangereuse. Et donc, du coup, il y a plus intérêt à designer en pensant aux handicapés plutôt qu'en pensant aux non-handicapés, donc aux valides, quand tu fais un design de produit. Ça, d'ailleurs, je crois que en te l'expliquant, je me souviens, c'était un TED Talk. Et si je le trouve, je le mettrai en dessous. Mais sinon, tu tapes design, handicap, bismart. Bref, tu tapes ce que tu veux sur YouTube, tu vas trouver. C'est un des TED Talks, c'était en anglais. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, désolé, mais c'est foutu. Quoique, il y a peut-être des sous-titres. Bref, au-delà de ça, ce que ça nous montre pour nous, notre métier de la vidéo, si tu as tenu jusque-là avec mes exemples qui n'ont rien à voir avec la vidéo jusqu'ici, le truc qui est super intéressant, c'est de comprendre cette chose. Aujourd'hui, quand tu fais une vidéo, quand tu vas traiter quelque chose pour un client, c'est important que tu te dises, est-ce que ça, tout le monde va pouvoir le comprendre ? Et que tu te positionnes toujours en tant que la personne, entre guillemets, la plus bête, ou la personne aveugle, ou la personne sourde, etc., etc., etc. Moi, quand je fais une vidéo, il y a toujours des petites astuces que j'ai, que j'utilise pour visionner ma vidéo quand je pense que j'ai atteint l'objectif et que je l'ai fini. Et c'est par exemple des astuces du style la flopper, donc tu prends toute ton image avec un calque et tu la tournes, et comme ça tu vois ta vidéo à l'envers. Ça te permet de voir des choses que tu n'avais pas vues avant, et ça te permet de voir si elle est compréhensible, par exemple si quelqu'un est dans une boutique et qui voit la vidéo dans un miroir. Parce que si elle n'est pas compréhensible dans un miroir, potentiellement le commerçant qui t'a demandé la vidéo, il perd des choses, tu vois, ou il perd le fait qu'on puisse attirer l'attention de la personne avec la vidéo dans le miroir et qu'elle se retourne pour la voir dans le bon sens. Ensuite, bien évidemment, tu peux aussi regarder la vidéo au ralenti, image par image. Alors c'est plus ou moins long selon ta vidéo, mais tu regardes ta vidéo image par image sur ton clavier dans ton logiciel de montage, et ça, c'est le truc ultime qui te permet non seulement de choper des erreurs, mais en plus de voir où est-ce que tu peux améliorer la compréhension, voir des petits mouvements parasites où tu as fait un montage qui était trop long ou trop court, etc. Et ça, c'est vraiment, mais je vais te le dire, c'est game changer. Bien sûr, tu peux aussi faire en sorte d'écouter que le son. Ceux qui suivent mes formations sur maximusuniversity.fr, ils le savent, puisque je le recommande dans la formation montage fiction et dans la formation première vidéo client, dans laquelle il y a une grosse, grosse partie de montage où on fait un vrai cas client. Et là, je le recommande. Une fois que tu as fait ton montage narratif, que tu as fait ton montage, tu écoutes uniquement le son. Pareil, ceux qui sont venus en workshop avec moi, je leur ai fait faire cet exercice, parce que écouter que le son, ça te permet de savoir si, un, les gens qui n'entendent pas, enfin ne voient pas, pardon, parce que sinon ça n'a pas marché, les gens qui ne voient pas pourront quand même comprendre la vidéo, et inversement, quand tu fais en voyant que l'image. Et ça te permet aussi, encore une fois, de choper des erreurs. Donc à chaque fois, ça te permet non seulement de choper des erreurs, d'améliorer le produit, de le rendre plus efficace, plus pertinent et parfois de supprimer des effets ou de supprimer des choses qui étaient superflues et donc parasitent la compréhension et la communication pour bien passer le message. Et à ce moment-là, donc, tu fais gagner de la valeur à la vidéo et donc à ton client potentiellement. Et en plus de ça, tu adaptes cette vidéo ou tu peux faire en sorte de l'adapter pour qu'elle soit compréhensible par les valides et ceux qui ne le sont pas. Et ça, c'est hyper, hyper important parce qu'aujourd'hui, il y a plein de business qui ont des gens qui ne sont pas valides, que ce soit moteur, mental, physique ou la vision, enfin tous les problèmes d'invalidité qu'on peut avoir. Et il y a plein de gens comme ça qui vont quand même consommer dans les business parce que c'est des gens normaux, ils ont juste des déficits et tu dois faire en sorte de pouvoir les servir comme les autres. Donc ça, c'est vraiment très important que toi, en tant que professionnel de la vidéo, tu sois capable de pouvoir adapter un contenu à tout le monde dans la mesure du possible. C'est-à-dire que parfois, ça ne t'est pas demandé, mais ça devrait être quelque chose que tu fais par défaut parce que tu es un vrai bon professionnel et tu comprends l'intérêt de ton client, dans ce cas-là, d'être compris par le plus de monde possible. Voilà pour cette anecdote. J'espère qu'elle t'aura servi. Je te mets les liens si je les retrouve en dessous. Sinon, comme je te dis, tu peux chercher TED Talk. Et aujourd'hui, clairement, si toi, tu es un professionnel de la vidéo, tu sais qu'on peut bosser un peu ensemble en coaching. Je t'en ai parlé dans un podcast précédent. Pour l'instant, j'ai plus de place, mais je prends des gens sur liste d'attente parce qu'il y a toujours des gens qui finissent leur coaching et d'autres qui les remplacent. Et sinon, si tu veux devenir professionnel de la vidéo que tu ne l'es pas encore, là, simplement, voici ce que tu dois savoir. Si tout au fond de toi, tu sais que tu serais plus heureux en te levant le matin pour aller en tournage ou aller faire du montage sur la vidéo d'un client plutôt qu'aller à un job qui ne te plaît plus, que tu veux vraiment cette situation où tu fais un métier créatif et tu te lèves avec le sourire, tout ça sans avoir de patron qui te dit ce qu'il faut faire, mais que malheureusement tu n'y arrives pas parce que tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas où trouver des clients, tu ne sais pas combien facturer, tu ne sais pas qui seront tes clients et tu ne sais simplement pas forcément tout faire, du tournage au montage, pour pouvoir réaliser une prestation professionnelle pour tes clients. Alors sache que j'ai créé l'école du vidéaste moderne. C'est spécialement pour les gens comme toi qui veulent transitionner, qui veulent changer de vie et créer une nouvelle vie et un nouveau métier. Cette école, elle s'appelle Le Programme et voici comment tu peux t'inscrire. Il te suffit de suivre le lien juste en dessous ou tout simplement d'aller à l'adresse suivante maxu.fr/PGM. Tu peux t'inscrire et te mettre ainsi sur la liste d'attente et à la prochaine session du programme, tu seras prévenu si ta candidature est retenue.
Merci d'avoir écouté le Podmax. T'as kiffé? Alors je t'invite à le partager et à mettre tout plein d'étoiles.